J'ai à cœur ce matin de faire un résumé de tout ce que le Seigneur nous a dit depuis quelques temps. Et dimanche prochain, ce sera l'entrée ou le début de la nouvelle série In and Out qui veut juste obéir à ce que le Seigneur nous dit. Tout au long du dernier trimestre, d'avril à juin, le Seigneur a parlé. Et puis le premier culte de juillet, en fait, j'ai prêché, j'ai reprêché fin juillet, mais c'est pas grave. Tu as dit que j'allais pas prêcher, mais j'ai prêché. Et le titre de ma prédication, le 7 juillet, c'était « Qu'est-ce que l'Esprit dit à l'Église ?» Je ne sais pas qui c'est qui était là à ce culte-là. Et je voudrais vous dire que c'était une prise de risque. Et cette année, le Seigneur nous demande ensemble de prendre des risques. Une prise de risque que ce soit la cacophonie. C'est-à-dire on s'est mis en petit groupe. Qu'est-ce que l'Esprit dit? Il dit ça, puis que, la confusion. La Bible nous dit, si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Et là, le son de la trompette était clair, le Seigneur nous dit, allez, prenez des risques, sortez de votre zone de confort, partagez votre foi, soyez sur un terrain de confrontation. Défiez-vous vous-même. Et ça, c'est une parole qui est retentie dans la vie de l'Église. Il y a eu un écho, je ne sais pas combien de groupes on était, mais 90% des groupes ont entendu la même chose. Et celui qui sait faire la synthèse de ce que l'Esprit dit dira, le Saint-Esprit nous parle, et le Saint-Esprit parle au corps. Chacun de vous, vous pouvez entendre la voix de Dieu et capter ce qu'il est en train de nous dire. Et je bénis Dieu que nous soyons en capacité spirituellement de capter cela, mais plus qu'un exercice, on va dire on est charismatique, on entend Dieu nous parler, mais on va le prendre et on va se mettre en mouvement. On va le prendre et on va y aller. Alors, ce que je prêchais, c'était exactement ça. Ça a été confirmé par ce temps où on a écouté le Seigneur, parce que c'était un exercice biblique. Quand Jésus écrit aux églises, il dit, mais que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. L'Esprit dit quelque chose en ce moment. Et c'est l'unité de nos cœurs, de notre foi, de notre amour qui va faire intensifier la manifestation du royaume de Dieu. Dieu, partout où il y a une unité de l'esprit, s'approche. C'est irrésistible à la présence de Dieu. Quand des cœurs sont unis dans la prière, dans la foi, quand des cœurs sont unis dans l'amour et dans la vision que c'est le temps que le royaume de Dieu se manifeste avec puissance. Et ça va nous dépasser parce que c'est lui qui le fait. La pression n'est pas sur nous. J'allais dire, est-ce qu'on peut mettre de la pression à Dieu ? Mais oser invoquer son nom et dire, nous te mettons, notre foi te met à l'épreuve, tu as dit, c'est sorti de ta bouche, et tu vas l'accomplir. Et c'est ensemble, c'est pas l'affaire d'un homme, c'est pas l'affaire d'un pasteur principal ou même d'une équipe de direction, c'est chacun de nous. Chacun de nous. Et vous allez être surpris, regardez. Alors c'est sûr que Sylvie et Shalomi font partie du conseil de l'Église. On pourrait dire, c'est encore des personnes responsables dans l'Église. Mais je voudrais dire, d'ailleurs, ce n'est pas souvent que Shalomi prend la parole. Je ne sais pas ce que tu as pris ce matin, toi. Sans permission, comme ça, spontanément. Pourquoi ? Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et vous allez voir chacun de vous, le Seigneur va se... Et ça va être étonnant. Moi, mon bonheur, ce sera de voir des gens qui vont venir raconter des histoires où moi-même je vais dire, waouh. Pourquoi ? Dieu veut se servir du corps de Christ. Et l'Esprit du Seigneur demeure sur chacun. L'onction est sur chacun. Bien sûr qu'on va discerner ce que Dieu a établi, parce que Dieu établit des personnes. Mais ceux-là sont là pour servir et pour libérer l'onction, pour libérer la grâce. Tout ceci est fait dans l'humilité. Ça ne vient pas de nous. On ne peut pas se l'approprier. Ce n'est pas question d'avoir un nom, c'est d'avoir son nom glorifié et sanctifié au milieu de nous. Alors, je vais rappeler un certain nombre de choses. En fait, c'est comme si je voudrais ne pas que les 2 mois d'été ne soient pas 2 mois qui servent à rien. C'est très souvent, c'est OK, juin, maintenant c'est les vacances, on desserre la ceinture, on n'est plus connecté, on n'est plus consacré, puis là, c'est, on se lâche un peu, plus de culte personnel, plus de. Des fois, je ne sais pas, on a des conceptions comme ça, alors que je veux vous dire, pendant l'été, le Seigneur a agi, a parlé. Et il ne part pas en vacances. Si nous sommes connectés, il ne part pas en vacances. Et il nous a parlé. Il nous parle de cela. Et je voudrais nous préparer, nous mettre au diapason ce matin pour vivre ce qu'il y a à vivre. Et alors, Du coup, ça m'a beaucoup encouragé. On a été en prière, on a préparé cela. Et puis, il s'est trouvé qu'il y a eu une conférence ici avec Leslie Pastorino. J'étais pas là. Et j'allais presque dire comme Jésus, je suis heureux, comme Lazare est mort, hein, je suis heureux que j'étais pas là. Il y a eu cette conférence, je suis heureux que j'étais pas là parce qu'il y a des choses qui se sont dites et j'y suis pour rien. J'ai juste eu la foi de dire, Seigneur, oui, j'accepte qu'elle prêche au culte et que cette conférence se fasse. C'était une prise de risque. On la connaissait pas. Tout le monde allait sur Internet, mais c'est qui, c'est quoi, c'est machin. Mais je voudrais vous dire, ici le 18, oh, je l'ai eu hein, par Skype, quand même, hein, c'est une question de... On est sérieux. Donc quand j'ai eu la conviction dedans de moi que c'était juste, ça s'est fait. Mais alors c'est au-delà de mes espérances qui s'est produit parce que ça a juste frayé un chemin pour ce qu'on a à vivre là, maintenant. Et je vais vous lire deux prophéties, il y en a eu plusieurs, mais dites, et je sais dans l'esprit, je sais parce que je vois le type de ministère que c'est pas le genre à chercher à dire quelque chose mais alors qu'elle le sait déjà. C'est-à-dire c'est le genre de femme un peu libre dans l'esprit. C'est-à-dire, elle est libre max. Pour moi, Leslie, c'est elle est libre, quoi. Vous voyez, c'est-à-dire, elle suit le Saint-Esprit, lui dit, et c'est délicieux quand c'est comme ça. Voici la première parole. Maintenant, mes amis, et c'est un verset biblique, en fait, hein, mais qui nous parle tellement, ne vous dérobez pas, car c'est vous que l'Éternel a choisi pour vous tenir devant lui, à son service, pour célébrer son culte et brûler des parfums en son honneur. Il ne pouvait pas savoir comment que ça correspond tellement à ce que ne vous dérobez pas. C'est le temps. C'est maintenant. Le Seigneur dit, ne vous dérobez pas. Et c'est très sérieux. Moi, à la fin du culte du 30, je sais plus, 30, fin juillet, je prêche, je sais que ce que je prêche était de l'Esprit de Dieu, puis quelqu'un que je ne connais pas vient me voir, me demande un rendez-vous en 10 minutes, puis prophétise. J'étais choqué, je vous dis la vérité, parce que tout ce qu'il me disait, le Seigneur me l'avait dit dans mon cœur, au fond de mon cœur. Et j'étais là ému, je dis, Seigneur, mais tu me vois, tu me connais. On sait qu'il nous voit, qu'il nous connaît, mais quand quelqu'un vient et dit, le Seigneur m'a parlé, puis il décline tout ce que Dieu m'a déjà dit dans mon cœur, j'étais bouleversé. Et le résumé, c'est quoi? C'est le temps. Cette rentrée, presque s'il disait, ne te dérobe pas, je t'ai choisi. Je vous ai choisi. C'est sérieux. C'est sérieux. Et avec une solennité telle que ça fait trembler, il dit, Seigneur, waouh. Autant de fois confirmé, waouh. Voici la deuxième prophétie. Écoutez bien. Voici une nouvelle saison, une saison de feu, de miracles et de prodiges. Je répète. Je vais vous donner l'occasion d'être avec moi. Voici une saison de feu, de miracles et de prodiges. Les cieux s'ouvriront toujours plus dans ce lieu, tant et pour autant que l'unité y sera manifestée. Tant que vous marcherez main dans la main, cœur avec cœur, toute génération confondue. Les cieux s'ouvriront alors que le vieillard et le jeune marcheront ensemble. Faisant la place l'un pour l'autre, afin de voir paraître la gloire. Vous allez vous multiplier à une grande vitesse. Et vous devez vous préparer à ce qui va arriver ici, des âmes de plus en plus, un culte le dimanche ne suffira plus. Non mais moi, c'est pas moi qui le dis. C'est juste comment on reçoit ce que Dieu nous dit. Comment on le reçoit. Et si vous saviez, alors ne loupez pas le 2 octobre. Pourquoi? Parce que tout ce qui est dit ici, c'est ce qu'on avait l'intention de partager. Se préparer pour qu'un culte ne suffise pas. Se préparer pour prendre des risques et partager sa foi. Se préparer à une offensive, se préparer à la guerre spirituelle. Se préparer à ce qu'il y ait plusieurs camps plus de clés. Se préparer à ce que la puissance de Dieu se manifeste avec vous. Être prêt. Par le jeûne, la prière, dire c'est le temps et on ne va pas se dérober. On va dire oui, on va dire présent. Et moi je parle aux ados, je parle aux jeunes de génération clé, je parle à nous, adultes, je parle à ceux qui sont comme des Siméons ou des Anne dans la présence de Dieu. Je parle à tous ceux qui ont fléchi le genou, qui ont attendu ce moment. C'est le moment de la consolation. Mais parce que l'Église se met au diapason, prend au sérieux la parole de Dieu, fait monter, accueille à l'intérieur de ses entrailles ce que Dieu est en train de dire et faire, et se sent concerné de sortir de l'isolement et de rejoindre, de faire cœur, de faire corps, de capter la vision, de laisser, se laisser embraser par ce fardeau. Il va y avoir une vraie différence. Je continue ? Est-ce que je continue ? Vous allez vous multiplier, je reprends la phrase, à une grande vitesse et vous devez vous préparer à ce qui va arriver ici. Des âmes de plus en plus, un culte le dimanche ne suffira plus. Une église clé ne suffira plus. Il faudra vous reproduire et vous multiplier. Vous devez vous préparer. De temps en temps dans la Bible, comme ça, il y a des répétitions du genre « en vérité ». Ça veut dire que c'est sérieux. Vous devez vous préparer. Je ne sais pas. Je sais pas si c'était vraiment... Ah, c'était voulu. Bon, d'accord. Je me tourne vers Charlotte parce que c'est elle qui a ouvert la porte et la connexion avec Leslie. Vous devez marcher comme un cœur, être l'exemple de mon amour envers vous-même, envers vous et envers toute ma création. Soyez prêts. Si vous me cherchez vraiment, vous me trouverez. Vous trouverez mon cœur et ma gloire. Mais cherchez-moi dans l'unité et d'une même voix, d'une seule main, la mienne, d'un seul pied, le mien, d'un seul cri, le battement de mon cœur, d'une seule couleur, celle de mon sang. Le temps vient, mes enfants, où je vais accomplir ce que je vous ai promis lors de l'ouverture de cette église, la multiplication. Ça finit par trois phrases. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. À la fois, ça réjouit, on peut applaudir, et à la fois, je vous dis, c'est sérieux. Ça nous responsabilise, personnellement et collectivement. Ce n'est pas juste une personne qui est concernée. Le Seigneur appelle son corps. Chacun de nous, chacun personnellement a une part. Et votre part fait la différence. Ce qui a été prêché cet été, l'une des prédications, même là, les trois dernières, parce que le 11, je n'ai pas réussi à écouter la prédication, le 4 août, ça disait « mourir à soi ». C'est un beau programme, ça. Si vous voulez être mes disciples, il faut renoncer à vous-même. Et je vais vous dire, il n'y a pas de réveil, il n'y a pas de résurrection sans qu'il y ait la mort. On ne peut pas vouloir une vie de résurrection, de gloire, de puissance, Dieu qui agit tellement, on est bouleversé, sans qu'il y ait de la mort quelque part. Pour que la vie agisse dans les autres, dit Paul, il faut que la mort agisse en nous. Voici le programme. Et je vous garantis que c'est très sérieux. C'est ce que le Saint-Esprit est en train de nous dire. C'est la préparation. La préparation, c'est la mort. Tu veux la vie de résurrection ? Oui, Jésus-Christ est ressuscité, c'est suffisant, mais il nous faut la mort. Dimanche dernier, on a entendu que c'est Gethsémané pour chacun. On veut l'onction, on veut la puissance. Oui, c'est la foi. Mais ça passe par nos vies qui choisissent la croix. Alors, je voudrais citer quelques passages. Je ne vais pas pouvoir faire tout ce que j'avais prévu ce matin, vous avez bien compris. Maintenant, c'est suffisant ce que je suis en train de dire et la suite là, parce que je vais aller directement sur le cœur du message, ou en tout cas, l'application devant Dieu ensemble. Mais je voudrais citer un épisode de la parole quand... Josué conduit le peuple d'Israël à prendre possession de leur héritage. Ils avaient tourné 40 ans dans le désert, ils traversent le Jourdain, et puis ils sont devant Jéricho, et puis le chef de l'armée de l'Éternel arrive, l'épée dégainée, et il met en ordre de bataille le peuple de Dieu. Josué tombe à genoux dans l'adoration, et le chef de l'armée de l'Éternel demande de ôter ses souliers. C'est une scène particulière. Et puis Dieu dit, vous allez combattre Jéricho, et personne ne devra prendre de ce qui est du butin, vous devez le consacrer à l'Éternel. Je fais une parenthèse ici, c'est que la consécration de tout ce qui est premier doit venir à Dieu. Dieu dit, ce que vous allez gagner, la première des victoires, c'est pour Dieu. D'accord ? Vous allez récupérer de la richesse, mais tout doit me venir. Et vous allez voir le message puissant qu'il y a derrière, c'est que tout le peuple de Dieu, ils étaient à peu près 1 million quand même. Hein. D'accord ? Dieu dit, aucun de vous ne touche. Ils vont combattre. Je vous fais l'histoire courte. Les murailles tombent. Et puis, ils remportent la victoire. Puis il y a quelqu'un. Une personne. Une personne. Qui désobéit. Cette personne garde de l'or, un manteau. Il le cache dans sa tente. Ils ont gagné la victoire. Et puis, tu sais, ils sont comme un peu dans une propre assurance. Et puis, ils vont combattre Haï sans consulter Dieu, une autre ville. Puis, ils prennent une rouste monumentale. Ils reviennent. Aïe, 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 aïe. Ça fait vraiment mal. Et là, écoutez bien, c'est pour ça que je veux nous rendre tellement sensibles aux enjeux. 1 million de personnes. Il y a une personne qui a désobéi. Tout le peuple d'Israël est arrêté. Quelqu'un qui sort de l'unité, de l'obéissance et de l'adoration à Dieu. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Mais j'aurais pu imaginer quand même plusieurs personnes. Là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais déjà, je veux souligner 99 ont obéi. Mais une personne n'a pas obéi. Dieu dit, il y a l'interdit au milieu de vous. Waouh ! Sur l'enjeu de l'unité, on est ensemble à dire oui à Dieu. Vous comprenez, c'est pas juste l'enjeu de Josué. Josué, il était consacré. C'était un homme de foi. Il croyait en Dieu. La victoire. Donc, il peut pas croire que le peuple de Dieu peut détaler devant ses ennemis. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il déchire ses vêtements. Il se tient devant Dieu. Mais je sais pas pendant combien de temps. Puis à un moment donné, Dieu lui dit, lève-toi! Il y a quelqu'un, une personne est sortie de l'alliance. Une personne a désobéi. Une personne est sortie de l'unité. Une personne. Et très souvent, vous savez, tout ce qui est arrivé dans l'Ancien Testament, c'est un enseignement pour nous. Si nous sommes unis, la présence de Dieu est là. L'unité nous donne une force qu'on ne peut pas avoir autrement. Tout le monde a saisi l'enjeu. Alors tout le monde était au garde-vous, mais il y en a un, Akan a osé. Il a osé. Il avoue, hein, à un moment donné, il dit oui, ok. J'ai eu de la. Ah, le terme exact, c'est de la convoitise. J'ai convoité cela, j'ai trouvé ça magnifique. Je l'ai pris. Sauf que, très souvent, nous péchons dans notre coin croyant que ça ne concerne que nous. Nous sommes un corps. Imaginez une partie de votre corps pêche et puis se met à attraper un virus. C'est tout le corps qui devient malade. Quand nous prenons la Sainte-Seine, c'est une affaire qui est très sérieuse. Nous disons que nous sommes un corps, mais spirituellement, une personne qui est malade dans ce corps peut contaminer tout le corps. Et quand je dis ça, je suis dans le repos, dans la paix, je ne veux pas susciter une culpabilité, une condamnation. Tu ne peux pas vivre ta vie tout seul, tu es membre du corps de Christ. Et l'enjeu, c'est vraiment sérieux. Imaginez, tout le peuple de Dieu est arrêté. Et alors, heureusement, à l'époque, il y avait un esprit de révélation, quelque chose de... Ça devait être l'Umim et le Thurim, et puis on dit, ouais, c'est qui ? Ah, c'est telle tribu, c'est la tribu de Judas. Très bien, c'est qui? C'est telle famille, c'est qui? Puis le gars, il dit, il est vers moi. Eh bien oui, on est arrivé vers toi. J'aimerais tellement que le Saint-Esprit produise la même chose au milieu de nous. C'est qui? T'imagines, c'est qui? C'est peut-être toi. Cette période-là, elle devait être terrible. Comme c'est qui? Il y en a un qui amène l'interdit dans la maison de Dieu, qui sort de l'alliance. C'est-à-dire, il pense tout seul. Il est tout seul dans son affaire. Mais oui, mais personne ne le voit. Ça n'a pas d'incidence. C'est faux. Dieu nous dit, préservez. Faites tout pour qu'il y ait l'unité de l'esprit. Faites tout qu'il y ait une consécration, le même niveau. Exhortez-vous les uns les autres pour dire, oui, on veut garder l'unité. Notre part, c'est garder l'unité. La puissance, la gloire, tout ça appartient à Dieu. Mais si nos cœurs sont dans l'unité, si nous obéissons strictement à ce qu'il nous dit, si nous rentrons dans ce qu'il nous dit, eh bien, ce que lui a à faire, il le fera. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, ils ont dû traiter. Et à l'époque, mamma mia, on ne faisait pas dans la dentelle. Tu vois, on aurait pu dire à quand, lui tout seul. Lui, c'est lui qui a péché, c'est lui qui a convoité. Non, sa femme, ses enfants, tout ce qu'ils avaient, on a lapidé. Mais vous savez, pour dire, il faut ôter le méchant du milieu de nous. Alors, nous sommes dans la grâce, il paraît. Mais c'est pour vous dire l'importance que Dieu accorde à l'unité et à prendre au sérieux ce qu'il nous dit. Il y a eu des scènes bibliques comme ça, où il y en a quelques-uns qui sont sortis aussi de cette unité. Vous vous souvenez d'Ananias et Saphira? On est dans le Nouveau Testament. On est dans le Nouveau Testament. Vous savez, prenez ça très au sérieux. Une personne se met à mentir. Et je me dis, oh Seigneur, s'il nous arrivait la même chose quand on ment. Et là, il se trouve qu'ils ont menti au Saint-Esprit. Quand on ment, oui, parce que si ce n'est pas traité, la puissance de qui se manifestait au milieu d'eux était liée à l'unité dans l'esprit. Écoutez-moi ce que je suis en train de dire. On veut voir Dieu agir de plus en plus. Notre part, c'est de préserver l'unité. De ne rien laisser passer. Rien. D'être sérieux. D'avoir cette fameuse crainte de Dieu qui fait qu'on ne s'autorise pas des choses. Et en conscience de Dieu, en conscience de nous-mêmes, mais en conscience des autres. Nous sommes un corps. L'Église doit redécouvrir le fait que nous sommes un corps et que nous devons être dans l'unité. Pourquoi la présence et la gloire de Dieu est descendue à la Pentecôte? À cause de l'unité. Il est dit 10 fois dans les actes des apôtres. Ils étaient d'un commun accord. Dans la prière, dans la recherche de Dieu. Ils étaient d'un commun accord dans leur relation. En commun accord. Et rien de ce qui pouvait produire le désaccord, eh bien, venait emporter, dire ma vie personnelle, mes projets. Là, c'est l'accord. Le corps qui prend le devant sur ma vie personnelle. Mes choix. C'est pas qu'ils n'aient pas donné, ils ont donné, mais ils ont menti. Paul dit, vous auriez pu garder cela. Mais tu viens mentir, tu casses quelque chose dans l'esprit. Je prie Dieu, que Dieu m'ouvre les yeux pour pouvoir dire, là, ce que tu viens de faire, si on ne le règle pas, ça va diminuer la puissance de la présence de Dieu au milieu de nous. Dès que ils ont lapidé Achan, et tout ce qui lui appartenait, vous comprenez, c'est-à-dire que vraiment à l'époque, il badinait pas. Dieu dit, ok, allez-y. Ils ont triomphé, pas parce qu'ils étaient capables, mais parce qu'ils se sont alignés dans l'unité de ce que le Saint-Esprit veut faire. Je veux juste ce matin être un héros, quelqu'un qui annonce quelque chose. Josué n'était, oui, c'était le successeur de Moïse, mais en vérité, le vrai Seigneur, c'était Dieu. Je vous dis la vérité. Josué n'était qu'un serviteur de Dieu, qui entend la voix de Dieu, qui l'a dit et qui s'attend à ce qu'il y ait une vraie réception. De ce que Dieu dit. Je vais citer un dernier texte avant de nous donner l'occasion de répondre à Dieu. Ce matin, c'est le texte de Shadrach, Meshach et Abednego. Qui connaît cette histoire? C'est un texte qu'on trouve dans Daniel 3. Je vais faire l'histoire courte. Je vais la résumer parce que si je la lis on va finir tard aujourd'hui, mais ce qui m'importe, c'est ce qu'ils ont dit après que le roi Nebuchadnezzar, qui est un roi très imbu de lui-même, élève une statue d'or de 30 mètres de long et 3 mètres de large. Je ne sais pas si vous pouvez vous représenter. Et puis, il voulait que tous ses généraux et tout le peuple adorent cette statue qui était une représentation de lui-même. Et puis, Shadrach, Meshach et Abednego sont des juifs d'une vingtaine d'années chacun, déporté là-bas parce qu'il avait, Nebuchadnezzar avait dit de prendre des fils nobles du pays. Il devait être aux alentours de 70 qui avaient été choisis pour servir à Babylone. Et il y en a trois, et je me demande d'ailleurs les 67 autres où est-ce qu'ils étaient dans cette affaire, mais il y en a trois qui ne se prosternent pas devant la statue. Et ils s'appellent Shadrach, Meshach, Abednego. Tous les autres sont babyloniens et ils se prosternent. Certainement qu'on veut garder son poste, ceci, puis des tas de choses qu'on pourrait se dire pour dire, moi, je me prosterne, mais dans mon cœur, je ne me prosterne pas. Ouais, on ne va pas chercher des histoires, et puis franchement, faut, hein? Bon, tout le monde se prosterne, mais il y en a trois qui ne se prosternent pas. Au péril de leur vie, parce que Nebuchadnezzar, il dit, ceux qui ne le font pas, c'est la fournaise. Ce que Dieu veut produire au-dedans de nous, c'est la même réponse, dans cette saison, dans la même réponse que Shadrach, Meshach, Abednego. Trois juifs qui savent que l'idolâtrie est un vrai péché devant Dieu. Et dans cette saison, le Seigneur va sonder nos cœurs pour voir tout ce qui est comme une idole devant laquelle on se prosterne. Je peux vous dire, ce n'est pas parce que nous sommes croyants qu'on confesse Jésus, qu'il n'y a pas des choses, si on accepte que le Saint-Esprit nous sonde, qui ne sont pas des idoles devant lesquelles nous nous prosternons. Le monde occidental va trouver ridicule de se prosterner physiquement devant du bois, de l'or, un métal, je ne sais quoi. Mais par contre, dans la pensée, dans le cœur, il y a des actes d'idolâtrie qui sont là. Quelque chose qui se place au-dessus de Dieu. Il donne une réponse qui est pour moi le meilleur des témoignages des croyants aujourd'hui. On pourrait s'imaginer que c'est plus facile que à l'époque de Shadrach, Meshach, Abednego. Je ne le crois pas. C'est le même enjeu de dire ce qu'on croit en face de la fournaise ardente. Et il va y en avoir des fournaises. Je voudrais vous dire, il va y en avoir des fournaises. Et il va y en avoir des idoles devant lesquelles on risque de se... Ou en tout cas, il y aura la tentation de se prosterner. Et en ce moment, je sonde mon cœur. C'est moi-même qui vous prêche, je me le prêche, je sonde mon cœur. Quelles sont les idoles devant lesquelles la tentation peut être réelle de se prosterner? Et des fois même, on ne s'en rend même pas compte. Ça peut être, vous savez, un homme, une personne, une femme, un enfant qui dans nos vies prend la place de Dieu. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Quand Anne a eu son enfant dans la Bible, elle a réussi à se prémunir elle-même de l'idolâtrie parce qu'elle a attendu toute sa vie. C'est-à-dire, elle préférait mourir que de ne pas avoir d'enfant. Donc imaginez quand elle en a eu un, la puissance ou la tentation d'adoration. Que cet enfant devienne une idole. Elle choisit de le consacrer à Dieu pour que Dieu reste le premier. Elle ne veut pas que cet enfant devienne une idole. Et je peux vous dire, il y a des choses dans nos vies qu'on aime tellement que si on ne fait pas attention, ça prend la place de Dieu. Abraham, Dieu lui dit, écoute, cet enfant que tu as entendu toute ta vie, celui que tu aimes, le seul, donne-le-moi. Sacrifie, on est dans l'adoration. En fait, nous vivons un conflit d'adoration. Constant dans nos vies. La question, c'est que comment on se laisse sonder pour renverser les idoles qui peuvent être encore dans nos vies, dont on a peur, qui nous captivent, qui nous paralysent. Il y a tellement de choses sur lesquelles on va pouvoir faire la déclaration de Shadrach, Meshach, Abednego de la même manière en disant, écoute, je vais vous lire ça. Je ne sais pas si tu peux me mettre ce verset. J'aimerais qu'on le lise ensemble juste avant de prier. C'est le verset 16. Shadrach, Meshach, Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Il nous délivrera de ta main, ô roi. » Mais écoutez la suite. « Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux. » et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sache, ô roi, que je suis convaincu de ce que Dieu est en train de faire, de l'importance qu'il a en fait. Pour moi, une telle déclaration devant le monde entier, c'est une occasion de dire notre attachement à Jésus. C'est sérieux, là. C'est pas un témoignage. Ça veut dire, tu parles, mais ça engage ta vie. Tu confesses ton appartenance à Dieu, que ton allégeance à Dieu, mais si tu le confesses, tu meurs. Vous comprenez? C'est-à-dire, ce qui est de sérieux, c'est que si nos vies ne sont pas engagées, et d'ailleurs, la suite, c'est que il est tellement furieux, c'est la honte pour lui que trois résistent. Il est tellement furieux, il dit, chauffez la fournaise 7 fois plus et jetez-les. Alors il les jette et il se trouve, et je vais vous dire, la gloire qu'on attend, la puissance, on attend que Jésus se révèle. Jésus se révèle dans le feu. Jésus se révèle quand nos vies sont livrées. Quand on parle la foi, quand on parle, qu'on confesse, vous savez, moi en ce moment, je me dis, des fois, quand on considère ce qu'on chante, si on considérait réellement ce qu'on chantait, parce que des fois, on le dit ça, « Seigneur, je te donne ma vie, mais vraiment, tu sais, mais il n'y a pas la fournaise !» L'enjeu, c'est que nos vies puissent dire la même chose en face de la fournaise. C'est-à-dire, il y a de la substance, il y a de l'engagement, il y a de la conviction, il y a une intégrité, quelque chose qui se donne, qui tient ferme. Et le monde attend des croyants de ce type. S'il ne le fait pas, imaginez, Dieu peut guérir, mais s'il ne me guérit pas, je ne vais pas faire allégeance, je ne vais pas me prosterner. Ça ne va rien changer à mon attitude. Dieu est fidèle, qu'il agisse en ma faveur ou pas, qu'il me dise oui ou qu'il me dise non. Je me prosternerai devant lui seul. Là où nous nous en allons, Dieu attend ce niveau d'engagement, de vie. Et Nebuchadnezzar conclut, il dit, waouh, ce Dieu-là, parce que, vous savez, ceux qui ne connaissent pas l'histoire, ils sont jetés dans la fournaise, et puis il y a un quatrième ange, et ils sont dans le feu et sont en train de se balader à discuter. Au moment où ils sont délivrés de leur chaîne, ils restent dans le feu. Et ils sont bien dans le feu, jusqu'à ce que Nebuchadnezzar dit, hey, sortez de là. Mais ils sont complètement libres en communion à croix avec Jésus. Alléluia. Jésus est là, où l'ange de l'Éternel a envoyé, ils sont en communion. Ils sortent et Nebuchadnezzar se met à adorer le Dieu auquel ils ont été fidèles. Il dit, il n'y a pas de plus grand Dieu que ce Dieu-là. Et il dit une chose qui rappelle Romains 12, il dit, ils n'ont pas hésité à livrer leur corps en sacrifice. Si nous sommes prêts à cela, il va y avoir une puissance dans notre témoignage. Je ne sais pas si vous me suivez là. Ils n'ont pas craint là. Aimer la vie jusqu'à craindre la mort. Là où Dieu nous attend, c'est pas, on ne va pas jouer, vous savez, à l'église, à venir à l'église, chanter quelques chants, repartir. C'est nos vies qui sont engagées. C'est nos corps que Dieu demande. Hein? Par les compassions de Dieu, offrez vos corps comme un sacrifice. Là, ils ont offert leur corps comme un sacrifice. L'adoration où nos vies sont engagées. Notre parole, quand il y a ce niveau d'engagement, a un autre poids. Notre témoignage, quand il y a ce niveau d'engagement, a un autre poids. Le monde se détourne et dit, mais ils sortent d'où, eux ? Ce sont les adorateurs du Dieu Très-Haut, prêts à donner leur vie. Sache, ô roi, que Dieu peut nous délivrer. Ça, c'est les hommes de foi. Il peut le faire. Dieu est capable. Mais s'il ne le fait pas, c'est le nombre de fois où on fait des promesses à Dieu. Si tu me délivres, je te servirai. Et là, que tu me délivres ou que tu ne me délivres pas, je te servirai. Je suis en train d'appeler, je veux finir avec ça, l'Église, à répondre au Seigneur. Le feu veut passer sur nous et on va répondre présent. C'est ce que la prophétie disait, hein, le lieu où le feu veut se manifester. Une saison de feu. Le feu révèle qui nous sommes. Le feu révèle ce qu'il y a en nous. Le feu, l'épreuve, les moments de difficulté, c'est là où Dieu attend une prise de position comme celle-ci. Et puis, on pourrait citer pas mal d'idoles, et je veux revenir là-dessus. Dieu a dit à Gédéon, je t'appelle, mais avant, va renverser l'idole de ta maison. Dieu a travaillé mon propre cœur ces derniers temps. Je suis en train, comme Gédéon, à renverser. Vous savez, dans le Nouveau Testament, il nous est dit « Fuyez l'idolâtrie ». L'idolâtrie, pour moi, est dans le corps de Christ sans qu'on s'en rende compte. Et aujourd'hui, je voudrais nous engager à nous lever, s'il vous plaît, déjà maintenant, et à nous laisser sonder pour voir quelle idole on doit renverser. Par rapport à ce que Dieu dit à l'Église, pour Achan, c'était l'or, les possessions. Une idole devant laquelle il a cédé, il a sacrifié. Et je voudrais nous rendre conscients que l'enjeu, c'est de donner nos corps en sacrifice, même si cela nous coûte, et en particulier quand ça nous coûte, pour grandir dans des convictions, les batailles de tous les jours, grandir dans des convictions fortes qui vont faire que dans des situations, c'est sûr, le monde va entendre une voix, va entendre un témoignage, une louange à Dieu qui va déclencher de vraies conversions. Nebuchadnezzar s'est mis à adorer Dieu à cause de cette prise de position. Cette saison, on veut voir Dieu agir. Cette saison, on veut voir l'ange de l'Éternel se manifester. Il y a même eu une promotion pour eux. Il y a même eu des tas de choses qu'on veut voir. Passe par des prises de position, des choix, une détermination, un engagement qui n'est pas juste des lèvres, mais qui engage nos vies. Ça peut être ta carrière qui passe devant Dieu. Désir de posséder. Peut-être les loisirs, ça peut être tellement de choses que tu sais dans ton esprit, que tu sais dans ton cœur. Et le Seigneur le montre. Quand on veut dire « je te servirai toi seul », il vient dans nos cœurs et il révèle ces choses. Et comme Shadrach, Meshach, Abednego, faisons un choix puissant de servir Dieu seul. De servir Dieu seul, de sacrifier. Ça peut être ton enfant, ça peut être même ton mari, même celui que tu attends. Il y a des choses qui captivent nos esprits, qui captivent nos cœurs et qui prennent la place de Dieu. Comme Anne ce matin, comme Abraham ce matin, redonnons à Dieu. Et considérons les enjeux dans lesquels nous sommes. De salut, d'unité, de puissance, de présence, de manifestation de notre Dieu. Je propose pour réponse, pour choix, de se mettre à genoux, de faire allégeance. De se consacrer, de se sanctifier, de décider d'accueillir ses convictions profondes. Nous n'aurons pas d'autre Dieu devant ta face. Nous fléchissons le genou devant toi seul et te déclarons Seigneur de nos vies. Saint-Esprit, nous entendons ta parole. Nous ne voulons pas nous dérober, nous ne voulons pas marcher dans d'autres voies que les tiennes, mais ensemble ce matin, nous te disons oui. Et nous prions que tu viennes nous assister dans cette saison pour t'obéir. Merci de te révéler, même en couple, en famille, sur tout ce qui prend ta place et qui doit retrouver sa place. Sois le Seigneur et le dernier mot. Aie raison, Seigneur, que tu nous conduises et que tu places des convictions en nous qui posent des actes forts. Nous voulons nous laisser convaincre par toi, Saint-Esprit, que ces convictions grandissent en nous et nous donnent d'être des Shadrach, des Meshach et des Abednego. Tu es notre Dieu, nous t'appartenons. Si nous ne comprenons pas tout, nous te faisons confiance. Et nous choisissons de faire de toi notre Dieu, notre Seigneur. Nos vies t'appartiennent, nous t'offrons nos corps, nos âmes, nos esprits. Nous prions que tu renouvelles, tu transformes nos pensées pour pas que nous ressemblions au monde, nous conformions au monde, mais que nous discernions ta volonté et que nous marchions à ta suite et en nouveauté de vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.